place. Je demande à Isabelle Dorgeret, qui est responsable développement technique entreprise Téréal, de venir faire une petite présentation rapide de son où en est son entreprise sur cette question. Téréal, c'est un groupe qui a été créé il y a en 2000, qui a regroupé trois entreprises et qui intervient dans trois domaines d'activité liés aux matériaux de construction en terre cuite, les toitures, les structures et les façades. Et vous êtes par ailleurs numéro 1 mondial de la couverture en tuiles plates et tuiles du Sud. Il faut aller. Isabelle Dorgeret, c'est à vous pour 10 minutes chrono.
Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter une réflexion de la part d'un industriel du secteur de la couverture, de la toiture, sur les problématiques de densification urbaine et comment est-ce que le toit peut jouer un rôle dans l'augmentation de la densité. Et également, comment est-ce qu'on peut essayer, en augmentant cette densité, à apporter également une réponse au problème de la rénovation thermique de l'habitat existant. Puisqu'on l'a vu ce matin, le neuf, c'est 1% du parc existant en France. Et si l'on veut atteindre le facteur 4, il ne faut pas simplement penser à la densification, aux problématiques d'étalement urbain, mais également à la rénovation. Et alors, on s'est dit, on a mis tout ça un petit peu dans une grosse boîte. On a essayé de mettre toutes les contraintes, toutes les problématiques auxquelles notre société doit répondre. Et on a, le fruit de cette réflexion, a produit quelques idées très concrètes. On n'est pas du tout dans la recherche scientifique de très haut niveau, vous allez le voir. Très, très concret, et c'est ces exemples très concrets que je voulais vous présenter. Donc, quand on parle de densité, là, je vais passer très vite aussi sur cette diapo. Donc, on a différentes représentations d'une même densité. Densité peut se comprendre à différents niveaux. Moi, je vais vous parler de densification, c'est-à-dire je pars d'une zone déjà habitée et je vais augmenter le nombre de logements dans cette zone déjà habitée. Donc deux problématiques en région Île-de-France, par exemple. On a Paris ou des centres assez denses où on a besoin de nouveaux logements. On est dans des zones assez tendues. On dit habituellement, enfin dans mon monde de la construction, on dit pour que ça aille bien, il faudrait construire à peu près 400 000 logements par an. Ce n'est pas du tout ce qu'on construit aujourd'hui. Et même dans les très bonnes années, comme en 2008, on n'a pas atteint ces 400 000 logements par an en France. Donc il y a un réel déficit de logements. Est-ce qu'il produit par là cette augmentation du coût en région Île-de-France, par exemple? Probablement. Il y a également des problématiques de foncier. Donc on a besoin de nouveaux logements. Et on a également besoin et nécessité, pour atteindre le facteur 4, de rénover le parc d'immeubles existants. De la même manière, dans les communes périphériques, qui sont un petit peu différentes en matière de géométrie, enfin de format d'habitation, on a également besoin de nouveaux logements et on a également besoin de financer la rénovation donc du parc.
Vous pouvez financer la révolution si vous voulez, hein. Mais...
c'est pas l'objet de ma
c'est pas l'objet de Téréal, on a compris.
Voilà. Le mien peut-être, mais pas Téréal. Voilà. Donc ce parc de maisons qui appartient à des propriétaires, comment les inciter à rénover, enfin atteindre le facteur 4, ça veut dire qu'il va falloir mobiliser aussi des particuliers à cette rénovation. Comment on fait aujourd'hui? Où est l'argent qui va servir à cette rénovation? Comment est-ce qu'on peut trouver des mécanismes de financement innovants? On a mis tout ça dans notre boîte dont je vous parlais tout à l'heure. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas en centre-ville? Voilà, utiliser les toits. Bon, nous, on est par ailleurs industriels du toit, donc on va regarder la ville par ce prisme-là. Pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle le foncier aérien, les surfaces de toit, pour densifier la ville. Et également, puisque la façade toit, enfin la cinquième façade, la partie toit, est souvent très déperditive. Bon, dans le logement collectif, j'ai pas de chiffres, mais dans la maison individuelle, années 70, 15, on a à peu près 30% des déperditions qui passent par le toit. Donc 30% des déperditions d'une maison, c'est énorme. Donc on peut commencer par agir sur le toit et donc a priori en ville également. Donc densifier en centre-ville. Donc voilà une proposition. Vous avez sur la gauche un immeuble existant dans le 11e arrondissement à Paris. Et puis vous avez la projection d'une étude qui a été réalisée par l'association donc sur les toits, qui fait la promotion du foncier de l'utilisation du foncier aérien, avec qui nous avons travaillé, et qui propose en fait la surélévation modérée, hein, puisque là en fait on a affaire à un immeuble qui est légèrement moins haut que son immeuble voisin, et que finalement en ajoutant un étage plus un étage dans le toit, on pourrait générer des mètres carrés supplémentaires. Et alors, donc moi j'ai demandé à comment ça marche financièrement, comment ça fonctionne ce projet. Donc sur ce projet très concret, hein, c'est un projet existant, le coût moyen du mètre carré dans le 11e arrondissement, 8000 euros. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir gagner par la vente des mètres carrés créés. En respectant le PLU, en respectant les règles de hauteur et le COS, on peut créer sur ce bâtiment 260 mètres carrés de surface supplémentaire. Ça génère quand même un coût de travaux relativement important, parce qu'on intervient à hauteur. En l'occurrence, sur cet immeuble-là, il n'y a pas besoin de renforcer les fondations, ce qui est un point important.
Extrêmement important.
Extrêmement important dans ce type de calcul. Donc là, on arrive à un coût de la construction des deux étages supplémentaires, donc l'étage plus dans le toit, à peu près 4 400 euros donc du mètre carré.
4 400, ça semble beaucoup.
Eh bien, on est en hauteur, on échafaude, on a des travaux à faire sur la cage d'escalier, sur la cage d'ascenseur. Ça va assez vite, hein, ça va assez vite. Il y a les frais d'études, c'est tout compris, hein, tout compris, frais d'études, archi, etc. Bon, on a pris large, volontairement. Ensuite, dans le cadre de ce projet-là, on en profite pour installer des chauffe-eau solaires, des panneaux solaires thermiques sur le toit pour la production d'eau chaude sanitaire. On en profite pour changer toutes les fenêtres de l'immeuble, d'isoler les planchers hauts et remplacer la chaudière. Donc on a un coût de travaux en plus de la surélévation à 236 000 euros. Pour tous ces besoins. Le bilan financier pour la copropriété, j'ai oublié de dire qu'il s'agissait d'une copropriété. Donc les gains, 2 080 000 euros. Les dépenses de surélévation à 1 144 000. Autres travaux, 236 000. Bilan, plus 700 000 euros. Pour la copropriété, donc à voir comment est-ce que ça peut être redistribué. Et en plus, 38% de baisse des charges pour les copropriétaires qui sont liés aux travaux d'amélioration énergétique de l'immeuble, mais également à l'augmentation du nombre de tantièmes de la copropriété liée à la création des mètres carrés supplémentaires. Donc un bilan flagrant de l'intérêt de ce type de mesure. Et puis alors bon, j'ai ajouté un point, évidemment des consommations de chauffage en moins, des émissions de CO2 en moins, enfin tout un tas d'avantages.
Et des appartements en plus.
Des appartements en plus, voilà, et qui sont créés sans générer d'étalement urbain supplémentaire. Il faut garder cet aspect-là aussi de vue. Alors, vous allez me dire, je fais les questions et les réponses.
En 2 minutes.
Je vais aller un peu plus vite. Vous allez me dire, mais oui, d'accord, là, ça marche. C'est un exemple isolé. Et alors là, je vais vous dire, non, parce que alors on a lu tout ce qui se fait bien sur le sujet de l'étalement urbain, tous les rapports, toutes les choses qui ont été écrites. Et dans le cadre du projet sur le Grand Paris, justement, il y a une étude de M. Cantal Dupart qui a étudié de façon exhaustive 12 rues de Paris. Et exhaustive, c'est-à-dire il a pris toute la rue et il a regardé toutes les dents creuses. C'est-à-dire sans changement du PLU, sans changement, on peut créer, voilà, surélever un certain nombre de bâtiments. Et simplement sur ces 12 rues, à peu près réparties de façon homogène dans Paris, on peut créer 466 000 mètres carrés.
Mais là, il ne s'est pas intéressé aux structures, hein, les immeubles.
Non.
Dans cette étude-là.
Dans
son étude, il a simplement mis, il a vu les différentiels entre le poste possible.
Il a simplement regardé, oui, il ne s'est pas interrogé à la faisabilité et au coût, effectivement. Mais il a simplement regardé en remplissant les dents creuses, si vous voulez, voilà, le potentiel de ce qu'on pourrait créer en surface. Voilà. Donc, nous, on pense que c'est un exemple qui a valeur d'exemple, mais il est extrêmement vertueux. Et toute politique qui encouragerait ce type de démarche est bénéfique pour tout le monde, pour les copropriétaires, pour les particuliers, pour la collectivité en général. Regardons maintenant...
Une minute pour la densification en périurbain.
Sur la super vite dans les zones périurbaines, on a fait le raisonnement également. Il reste un peu de place au sol, on va dire, dans les zones pavillonnaires existantes. Et les zones pavillonnaires existantes sont un véritable gisement de terrain. Alors, voilà un exemple d'une commune que je connais bien, puisque j'habite pas très loin, où il y a une expérimentation qui a été faite dans ce sens-là. Le maire du Tremblay, sur Mauldre, envisage que la population va augmenter d'à peu près 10% dans les 10 années qui viennent. Donc, il s'est dit, comment je vais faire ? Est-ce que je crée un éco-quartier ? Il y a des endroits où il aurait pu le faire, ici. Enfin, pas, là, il y a le château, pardon. Plutôt par ici. Est-ce que je crée un lotissement pour relier les deux parties ? Ou est-ce que je vais plutôt dans le sens de mes habitants pour faire quelque chose qui ne dénaturera pas l'image de la commune quand on arrive en voiture ? Ça, c'était un souhait important des habitants. Donc, en fait, il a organisé des réunions à la mairie pour les habitants de sa commune en leur disant, ben voilà, si vous voulez, vous pouvez rencontrer des architectes et ils pourront regarder avec vous les possibilités de densification par le biais de la division de votre parcelle de terrain, si ça vous intéresse. Et en fait, vous avez tous les petits points rouges qui sont sur ce schéma-là, qui sont les propriétaires occupants qui seraient susceptibles de vouloir le faire dans les 10 années qui viennent. Et donc là, ça couvre absolument ces besoins de 10% d'augmentation de la population. Donc c'est une piste qui est intéressante également. Si je la remets dans le contexte de la rénovation thermique, bon, je passe assez vite sur mon petit exemple pour aller directement au schéma. Voilà une maison qui est au Tremblay, avec un terrain un peu alambiqué. Donc les architectes ont proposé 3 possibilités de construction, de division de la parcelle avec une construction de la deuxième maison. Les personnes ont vendu cette partie de terrain, ont détaché cette partie de terrain, l'ont vendu 170 000 euros. Bon, on est dans une zone où le prix du foncier est relativement élevé. Et ont mis à profit cet argent récupéré du foncier pour rénover thermiquement la maison existante. Donc voilà le bilan de tout ça. C'est bon, on est dans une zone qui est un peu, enfin, légèrement tendue. Enfin, on reste en Île-de-France. On crée un logement. On n'est pas en situation d'étalement urbain. Et en plus, on rénove la maison existante. Donc voilà également une piste qui est à regarder. Et vous allez me dire, c'est ma dernière slide. Ça, c'est oui, d'accord, mais le monsieur, il veut bien, c'est un cas isolé. Alors, nous, Terreal, on est membre de l'association Promotoit, qui fait la promotion de la toiture, mais ça, c'est à part. Et moi, je m'occupe d'un des groupes de travail de Promotoit. Et j'ai commandé personnellement un sondage IFOP pour voir si c'était délirant, cette idée, ou si ça pouvait marcher. Et on a demandé aux gens, sans leur expliquer rien du tout, hein, sur un panel représentatif de la population française, on leur a dit, bah voilà, est-ce que vous seriez prêt à envisager la vente d'une partie de votre terrain pour qu'il y soit construit une autre maison ? 33% des gens ont répondu oui. Et là, on ne s'attendait pas du tout à ça. Alors, si je fais un calcul avec les mains, 19 millions de maisons en France, dont un peu moins qu'on des parcelles divisibles, on va dire, ça oui. Fait un potentiel de construction de l'ordre de 6 millions de maisons, ça veut dire sans étalement urbain. Donc voilà, c'est une piste qui est à regarder également. Je vous remercie de votre attention.
Et même en anglais, c'est super. Merci beaucoup Isabelle Dorgeret.